Les colloques du Collège de France.
Bien, si vous voulez bien reprendre vos places pour cette seconde partie de la matinée qui va être consacrée au tout début à l'hôpital du futur, cherche ce modèle désespérément. Désespérément, Dieu merci, nous avons deux interlocuteurs qui vont pouvoir se succéder et nous donner un peu d'espoir pour le futur. Alors, le premier qui va parler, c'est Jean-Patrick Lajonchère, qui est intitulé ici « Expert management hospitalier et innovation technologique en santé ». En fait, pour essayer de récapituler rapidement le parcours de Jean-Patrick Lajonchère, c'est un peu difficile, mais on peut dire qu'il est diplômé de l'École des Mines, donc il a une formation d'ingénieur, titulaire d'un MBA de Subdeco, donc il a une formation d'économiste. Et il a passé 30 ans à l'APHP comme ingénieur hospitalier d'abord, puis comme directeur des hôpitaux Saint-Louis du grand groupe hospitalier Paris-Est. Voilà, 30 ans à l'APHP qu'il connaît parfaitement. Mais en 2009, il est nommé directeur général de l'hôpital Saint-Joseph, qui est un hôpital privé à but non lucratif, j'insiste, bien sûr. Et c'est en fait le premier groupement hospitalier privé, à but non lucratif. Et en 15 ans, Jean-Patrick Lajonchère aura un effet remarquable sur ce groupement hospitalier, dans la mesure où il réorganise, avec notamment l'hôpital Marie-Lannelongue, qui était en grande difficulté. Il est actuellement d'ailleurs conseiller du président de la Fondation Saint-Joseph. Alors, j'ai parlé d'ingénieurs, d'innovation technique et technologique. Et là, Jean-Patrick Lajonchère est particulièrement intéressé à tout ce qui concerne et le bâtiment et naturellement l'intelligence artificielle, le numérique, etc. Et il est heureux de mettre dans sa biographie que le papier zéro existait et à Saint-Joseph et à Marie-Lannelongue depuis quelques années, grâce à donc la numérisation de toutes les données. Tout ça a permis, de faire de Saint-Joseph l'un des premiers hôpitaux classés dans le monde. Il peut en être fier. Alors, Jean-Patrick Lajonchère continue, je pense qu'il est à la retraite, je ne dirais pas son âge, mais il semble quand même avoir maintenant l'âge de la retraite, et il continue comme correspondant à l'Académie de médecine dans un groupe intelligence artificielle et santé, d'une part, et d'autre part, il est chargé de mission au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour fluidifier et exporter, apporter peut-être aussi la technicité française en matière d'hôpital. Et il crée récemment un groupe à l'Académie de médecine qui s'intitule « Conception et architecture de l'hôpital du futur ». Donc c'est vous dire que là, nous avons un modèle qui va être discuté par quelqu'un de hautement compétent, que nous attendons avec plaisir pour sa présentation. Donc Jean-Patrick.
Merci. Vous avez 20 minutes.
Oui.
20, 22 minutes, voilà.
Merci beaucoup.
Bonjour mesdames, messieurs, j'espère vous m'entendez bien. Bon, le teasing est un peu stressant et je ne suis pas sûr que je puisse vous apporter beaucoup de réponses en fait en vous parlant de l'hôpital public, privé et du rôle des fondations. Et je vais d'abord vous raconter mon vécu et puis peut-être essayer d'en tirer des conclusions. Alors, mon terrain a été vraiment parfaitement préparé par les deux intervenants précédents, parce que tout d'abord on voit bien la difficulté de trouver des réponses simples, même si notre époque aimerait bien toujours avoir des réponses simples à des questions difficiles. Et ça, c'est à chaque fois du niveau du prix Nobel. Mais vraiment, la première chose qui se pose, et mon intervention tournera autour de ça, c'est du service public, de la santé. Et probablement, ça, je ne saurais pas y répondre, mais je crois que, tout d'abord, la première question, c'est quel sens ce service public a-t-il encore aujourd'hui et doit-il avoir dans le futur ? À partir du moment où on répondrait, et je n'ai pas entendu, moi, depuis les années où je m'intéresse un petit peu à la politique, ou en tout cas au message politique, je n'ai pas vraiment entendu de programme présidentiel, ça a été dit par Laurent, qui nous projette dans une vision de la santé et de la santé publique dans notre pays. Et donc, on finit par parler d'une richesse, c'est-à-dire le service public hospitalier, l'accès aux soins à tous, comme d'une pauvreté, puisque ce service coûte tellement cher qu'on a envie de faire plein d'économies pour que la France, sa communauté populationnelle de la France, puisse le supporter. Vous voyez un petit peu comment le manque de sens finit par transformer une richesse en pauvreté. Une mission fantastique, celle de soigner, en difficulté. Et comment, après une crise sanitaire comme le Covid, qui a mis en exergue le fait qu'avant, on avait dit aux soignants, on ne peut pas vous donner plus d'argent, mais vous faites un métier merveilleux. Après, on dit, comme vous faites un métier merveilleux, maintenant, on va vous donner de l'argent. Et ça coûte beaucoup à la collectivité nationale. Et en fait, les soignants sont sûrement contents de l'avoir, mais en fait, ne cherchaient pas forcément ça. Bien sûr, ils cherchaient à vivre correctement, à ce que leurs engagements personnels en matière d'urgence, en matière de permanence des soins soient reconnus. Mais ça l'a été dit par Nicolas Revel. Ils cherchaient aussi des conditions de travail correctes et cohérentes, etc. Et vous voyez, à chaque fois, on se demande où est le sens. Et je trouve, moi, que quand vous êtes dans un cadre limité, celui d'une fondation ou d'une association, il est plus simple, probablement, à notre niveau, de retrouver du sens que dans des services publics qui sont, je dirais, écartelés entre différentes contraintes. Donc, revenons aux propos. Deux statuts pour exercer le service public, en fait. Celui des hôpitaux publics, avec dépendant de la fonction publique hospitalière et exerçant le service public hospitalier quasiment majoritairement. Et puis des hôpitaux qui avant s'appelaient participants au service public hospitalier, et l'acronyme était compliqué, d'ailleurs il ne s'est pas simplifié, l'acronyme était compliqué, mais il disait bien quel était le statut des fondations ou associations, c'est celui d'être aux côtés des hôpitaux publics pour exercer le service public hospitalier. Et en tout cas, nombre d'entre nous, fondations ou associations, alors les hôpitaux les plus connus de ce type-là, c'est l'hôpital Foch, c'est l'Institut Montsouris, c'est l'hôpital Marie-Anne-Longue, Saint-Joseph, les Diaconesses, pour les Parisiens. Bien sûr, et c'est plus méconnu, les centres de lutte contre le cancer, qui ont un statut un peu particulier, mais qui sont des hôpitaux privés non lucratifs, et l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon, Bagatelle à Bordeaux, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on nous appelle hôpitaux privés ? Eh bien, hôpitaux privés parce qu'au titre du droit du travail, nous n'employons pas des fonctionnaires. Donc, nous sommes dans le secteur privé. Non lucratif, parce que nous ne rémunérons pas des actionnaires, et ce qui nous reste à la fin de l'année comme différence entre les charges et les dépenses s'appelle soit un déficit, et la vie commence à devenir difficile, ou soit un résultat positif, et nous avons les moyens, justement, de l'innovation et de l'investissement. Vous voyez déjà, pour nous, la vie est plus simple, parce qu'elle est plus claire, et quand j'ai pris Saint-Joseph avec 28 millions d'euros de déficit en 2009, sur un budget de 250 millions, c'est-à-dire 3 mois de trésorerie, j'ai expliqué aux gens, ce que j'étais peu compris, nous avons une chance formidable, c'est que nous pouvons mourir. Et en fait, je crois qu'une des parties de ces associations, et il y a des preuves. Récemment, l'Institut Montsouris, il y a quelques années, l'Institut de puériculture de Paris, etc. Il y a des preuves. Les hôpitaux privés non lucratifs, sous statut de fondation et d'association, doivent faire attention à leur budget. Deuxième chose, en Europe, en fait, beaucoup, on nous le dira, beaucoup d'hôpitaux privés non lucratifs représentent quasiment le système public. Mais en définitive, c'est pas si simple. J'ai passé un bon moment à essayer de trouver des chiffres. Alors on dit en Allemagne 25% des hôpitaux, aux Pays-Bas 20%, en Italie 15%. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ces chiffres, parce qu'en fait, la proportion est bien plus grande en France si on intègre tous les hôpitaux, enfin les structures médico-sociales qui sont pour beaucoup associatives. Et donc, vous voyez, donner un chiffre en France, on pourrait dire 8% de l'hospitalisation, si l'on compte les hôpitaux publics, le nombre de lits des hôpitaux publics et des hôpitaux privés non lucratifs dans le domaine médecine, chirurgie, obstétrique. On en est à 8%. Mais donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais sachez quand même donc que, d'une certaine façon, ce modèle est loin d'être le modèle privilégié en France. Et alors, si on a l'humour mal placé, on va entendre des hommes politiques qui, avant les élections présidentielles, vont dire « Ouais, c'est le modèle génial et c'est celui-là que je veux promouvoir. » Et puis, systématiquement, en tout cas depuis 3 ou 4 élections présidentielles, l'élu dit « Oui, d'accord, mais c'est compliqué. » Donc, je suis très méfiant sur mon propos. C'est pour ça que je ne vais pas dire qu'il y a un modèle qui est bien et un modèle qui n'est pas bien, parce que ce n'est pas ça la vraie vie. Et là, je vais y venir. Mais en définitive, je vais me poser la question de savoir, n'y aurait-il pas des éléments de rapprochement de chacun des côtés pour se dire que le service public est en fait la seule valeur cardinale, c'est ce que nous devons garantir aux Français, et que le mode d'exécution du service public, c'est une façon de gérer, c'est un statut, mais que divers statuts peuvent y concourir. Alors, entre les deux modèles, agilité, fragilité. On va dire que nos hôpitaux privés non lucratifs, alors maintenant l'acronyme de la fameuse loi hôpitaux, patients, santé, territoire, n'oublions pas que dans cette loi, au moins le mérite, c'était d'avoir mis patients. Bon, donc des hôpitaux de la loi HPST, l'acronyme, nous appelons établissements de santé privés d'intérêt collectif. Ouais, il a fallu quand même réfléchir. Donc les ESPIC sont agiles, ça c'est ce qu'on nous prête souvent. Moins contraints réglementairement, apparemment. Parce que le code du travail, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est aussi contraignant, quelquefois même plus, que le code des fonctionnaires. Donc, le code du travail n'est pas si simple à gérer. Les entreprises le savent aussi. Les contraintes de code des marchés publics. Vous interrogez des avocats, je l'ai fait. La moitié des avocats disent les privés non lucratifs sont soumis au code des marchés publics. L'autre moitié disent non, ils ne sont pas soumis. Donc, à votre conseil d'administration d'apprécier dans quelle catégorie vous logez. Donc, là, en tout cas, même quand ce n'est pas le code des marchés publics, c'est des enjeux de concurrence, de transparence, etc. Tout cela, c'est compliqué aussi. Toutes les réglementations de la santé sont applicables aussi aux hôpitaux privés non lucratifs. Donc, vous voyez, je n'engage pas à chercher l'agilité et la souplesse dans des réglementations différentes. Par contre, je trouve que, et là Laurent l'a beaucoup développé tout à l'heure, la décision proche du terrain, le fait d'avoir un conseil d'administration, et là, pour le coup, l'apport de Nicolas Revel en disant « mais quelle légitimité d'un conseil d'administration ?» n'est pas sans intérêt, parce qu'il est vrai que quand, dans les années 1880, des familles riches décident d'acheter des terrains, d'y consacrer, plutôt que d'aller au casino de Deauville, je suppose, de leur argent et d'acheter ces terrains, de construire des bâtiments, Alors, ils n'ont pas beaucoup embauché, c'était des bonnes sœurs à l'époque, donc ça allait. Donc, la masse salariale n'était pas le premier poste de dépense, apparemment, des hôpitaux. Il n'empêche qu'ils ont embauché des médecins et très rapidement des infirmières quand même. Et donc, ils ont consacré jusqu'à l'apparition de la sécurité sociale leur fortune à faire de la charité, qui était donc dans la catégorie « la charité devient hôpital ». Et ces familles ont donc un patrimoine qu'elles ont transformé en fondation. Et c'est cette fondation qui fonde la nécessité d'un conseil d'administration et qui fonde la légitimité de tout cela. Et ce conseil d'administration est responsable financièrement en cas de faillite. Vous voyez donc, une entité simple. Ce conseil d'administration nomme un directeur. Et contrairement aussi à l'imagerie populaire, le directeur est révocable et plus facilement, au moins aussi facilement que par les agences régionales de santé aujourd'hui pour les directeurs d'hôpitaux publics. Mais le directeur est censé, justement, effectivement, embarquer un collectif pour réussir la mission. Vous voyez, là, c'est quelque chose, et là, on retrouve du sens au niveau local. Pour avoir dirigé des hôpitaux publics, et Saint-Louis n'était pas le moindre, pour avoir dirigé des hôpitaux publics, on arrive bien sûr à donner du sens. Mais à un moment, on finit par le perdre dans la perte de la notion d'équilibre financier qui permet l'investissement, qui permet l'innovation, etc. Vraiment, j'ai trouvé ça intéressant dans les hôpitaux privés non lucratifs. Donc les hôpitaux privés non lucratifs sont aussi fragiles. Ils sont agiles, mais ils sont fragiles. La fragilité, c'est que tout déficit aboutit à une sauvegarde, une faillite, une reprise. Vous parliez de l'hôpital Marie-Anne-Longue, c'est quand même une des plus belles structures hospitalières de France concernant et du monde concernant le cœur et le poumon de l'adulte et de l'enfant. Il n'empêche que Marie-Anne-Longue était en situation financière extrêmement difficile et que c'est la Fondation Saint-Joseph qui l'a repris parce que, et pourtant, la médecine n'était pas en cause, et la confiance des malades non plus. Vous voyez ? Les marges de gestion sont donc indispensables dans ces hôpitaux-là pour arriver, là encore, ça a été pour moi une problématique forte, d'abord de consacrer une partie du résultat positif à verser de l'intéressement au personnel de l'institution, et deuxièmement, d'utiliser... À l'innovation, et si je devais donner un exemple, on est probablement le plus beau plateau technique d'imagerie en France avec en termes d'équipements lourds, IRM et scanner, mais juste parce que on avait bien sûr les compétences et l'envie, mais aussi parce qu'on avait les moyens d'investir. Donc, sur cette première partie, agilité, fragilité, je dirais notre statut est envié, mais souvent mal compris. Nous avons la même notion de service public hospitalier et hôpitaux publics. L'engagement dans la prise en charge des urgences pour beaucoup d'entre nous. L'approche de qualité et d'humanité historique. L'engagement dans l'enseignement médical et paramédical pour beaucoup d'entre nous, les plus gros c'est certain. Dans la recherche également pour les plus importants. Et aujourd'hui, notre groupe Saint-Joseph-Marie-Anne-Longue, c'est pas à chaque fois une page de pub, c'est juste un exemple. Et Foch n'est pas loin, enfin, Foch est de la même nature. Nous sommes dans le peloton des CHU moyens, autour des publications de Saint-Étienne ou des choses comme ça. On est loin d'être dans les plus grands comme la PHP ou les hospices civils de Lyon ou la Paix de Marseille. Mais vous voyez, nous sommes au niveau d'un CHU de taille moyenne français. Et une approche collective des soins. En fait, quand je dis collectif des soins, c'est parce que c'est ce qui nous différencie vraiment fondamentalement des cliniques privées. On sait que dans une clinique privée, vous allez pouvoir trouver de l'excellence, vraiment de l'excellence médicale, mais souvent moins collectif que dans les hôpitaux publics et dans les hôpitaux privés non lucratifs, ce qui nous amène à pouvoir plus facilement se proposer dans des prises en charge complexes, dans des prises en charge longues, et peut-être un jour, comme l'a dit Nicolas Revel, dans une approche de la prévention coordonnée. Des difficultés, donc, partagées aussi avec les hôpitaux publics. des professions médicales et paramédicales en évolution rapide, je ne reviens pas sur les propos qui ont été dit, des années post-Covid difficiles, des écarts de tarification avec le secteur libéral, ça a été dit, la classification des actes médicaux fait que les différences de statut entre les cliniques privées et les deux autres formes de statut créent une disparité très forte pour la rémunération des médecins et chirurgiens des disciplines à actes comme la chirurgie, la radiologie, etc. Et puis, des patients plus lourds et âgés, là aussi, nous partageons ça. Je rappelle que dans un privé non lucratif, vous n'aurez pas jamais de dépassement d'honoraires. Quelques-uns d'entre nous pratiquent des honoraires remboursés au niveau remboursé par les mutuelles. Ce n'est pas la majorité des cas. Et donc, vous allez trouver les mêmes engagements que le service public. Des risques et des lourdeurs, en fait. Quand on a dit tout ça, l'agilité, la fragilité, les engagements dans le service public, qu'est-ce qu'on va trouver ? Une contrainte financière des hôpitaux privés qui oblige, je l'ai dit, à la souplesse, ou, et on le sent ces deux dernières années, à la disparition ou à la reprise par une autre structure. Cette contrainte financière comme celle des hôpitaux publics, mais comme nous avons des contraintes de trésorerie immédiates, ça pourrait tendre à dégrader la qualité des soins par défaut de financement ou à supprimer l'innovation. Alors, je suis de nature optimiste et positive, mais je vois bien que dans une partie de nos hôpitaux, le post-Covid est conforme à ma description. Plutôt ma description est conforme à ce qu'on vit dans le post-Covid. Mais la non-contrainte financière immédiate des hôpitaux publics, j'en vois un peu plus maintenant parce que je partage avec 5 collègues de l'hôpital public, j'ai un peu plus de temps, et en définitive favorisera l'immobilisme des hôpitaux publics. Un discours du type « jusqu'à maintenant, on nous a bien accompagnés et les financements ont bien suivi, donc pourquoi voudriez-vous d'un seul coup qu'on bouge ?» sont des discours qu'on entend souvent. Et je connais trois privés non lucratifs qui ont fait faillite et qui ont été repris, qui avaient le même discours. Donc quand ce discours-là commence à émerger dans une structure, vous êtes à peu près tranquille, vous allez perdre de la qualité. Et souvent d'ailleurs, je connais peu d'exemples, ou sauf peut-être celui de Marianne Long que j'ai cité, où qualité et financement ne vont pas avec. Un établissement en déficit est rarement réputé comme un établissement de grande qualité. La lourdeur administrative et la complexité, ça a été dit par Laurent, des circuits de décision, la complexité et la non-transparence des circuits de décision va provoquer un manque de souffle et de réaction. Donc, si on veut sortir de ces risques et de ces lourdeurs, on pourrait peut-être se demander qu'est-ce qu'il y a à faire. Et je ne pense pas qu'il n'y ait à faire, et c'est ma conclusion, je ne pense pas qu'il n'y ait à faire quelque chose qui serait de dire tout le monde va vers le statut privé non lucratif. D'abord, c'est illusoire. Vous avez une fonction publique hospitalière, vous avez des traditions, vous avez etc. Ne rêvons pas. Et en plus, qui pourrait se jeter dans des contraintes qu'aujourd'hui ils n'ont pas ? Donc, c'est illusoire. Mais par contre, si l'hôpital public réfléchit à sa gouvernance, Laurent l'a dit, et donc retrouve de la souplesse de décision et de la souplesse de proximité, comme les privés non lucratifs. Si le risque financier arrive enfin à revenir de l'hôpital public. Alors tout ça présuppose qu'on a réglé un sujet, enfin, je ne suppose pas que le sujet soit réglé, mais n'occulte pas le sujet de quelle est la mission du service public en France et quelles sont les règles de son financement. C'est sûrement une journée future du Collège de France de parler de ce sujet, parce que vous comprenez bien qu'il permet de positionner les médecins qui ne sont pas en exercice hospitalier, les médecins dits libéraux, qui permet de positionner la prévention et ses acteurs, et qui fait quoi dans la prévention, qui permet de positionner le service public hospitalier. Vous voyez bien que ce sujet-là est extrêmement important. Mais donc, il faut introduire le risque financier à l'hôpital pour que ce ne soit pas un non-sujet et un sujet qui empêche de se réformer. Je rappelle que derrière la réforme, c'est effectivement, vous l'avez dit, de l'innovation. Hein. Ce n'est pas se réformer pour se réformer, c'est se réformer pour devenir dynamique. En clarifiant la situation des privés non lucratifs dans le service public hospitalier, je l'ai occulté, mais nous n'avons pas exactement les mêmes tarifs que le service public hospitalier à 2-3% près. Sur un budget de 400 millions, 2%, ça fait quand même 8 millions. Hein. Donc, quelque part, il faut faire les efforts de gestion pour les retrouver. Et donc, peut-être, un nouveau contrat de service public pour les deux structures, avec des améliorations et des évolutions dans chaque, une reconnaissance des deux structures en commun, et donc, petit à petit, éventuellement, une possibilité pour certaines des structures publiques de franchir le pas, puisque des statuts pourraient être unifiés, en tout cas, dans l'application de leur mode d'exercice. Et pour moi, vraiment, le service public hospitalier reste l'objectif intangible, quel que soit celui qu'il exerce. Et par ailleurs, ma proposition serait, sans modifier les structures, qui est quand même quelque chose d'extrêmement difficile dans notre pays, d'aller chercher le meilleur des deux mondes pour exercer le service public. Voilà. Merci beaucoup à vous.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.